Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour.
Une bonne nouvelle pour le cinéma français. À quand le retour de Michel Drucker, la flamme pas près de s'éteindre et le mea culpa timide de Nicolas Bedos.
Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
C'est France 2 qui a pris la première place des audiences avec le téléfilm « T'inquiète pas, je suis là » avec Samuel Le Bihan. Cette fiction inédite sur l'autisme a été suivie par 4,3 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 18%.
Il était là, dans ce studio hier, on lui a porté chance et aussi merci à Laure Gignès qui programme cette émission. C'est elle qui a invité Simon Le Bihan.
M6 est deuxième avec la suite de « L'amour est dans le pré » saison 15. Karine Le Marchand et les agriculteurs ont fédéré 3,7 millions de personnes pour 16,2% de part d'audience. La 6 est aussi leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 24,6%. Enfin, TF1 pointe en troisième position avec un nouvel épisode de Joséphine Ange Gardien, avec en guest star une désormais ex-star de TF1, Laurence Boccolini, au compteur 3,3 millions de téléspectateurs, soit 14,3% de part d'audience en petite forme.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias, une fois n'est pas coutume, par une bonne nouvelle pour le cinéma français.
Et oui, et il en a bien besoin, et nous aussi, à vrai dire. La semaine dernière, après un suspense haletant, la sortie du film Adieu les cons d'Albert Dupontel était finalement maintenue au mercredi 21 octobre.
Excusez ma grossièreté, adieu les cons.
Voilà, je vous en avais parlé dans le journal. Le doute avait plané suite à l'annonce du couvre-feu dans, à l'époque, 9 métropoles françaises qui représentaient plus de 20 millions de spectateurs, interdits de séances de 20h ou même de 22h. Le couvre-feu a été étendu ce week-end, mais ça n'a pas empêché Adieu les cons de rencontrer un succès impressionnant. De mercredi à dimanche, le film emmené par Albert Dupontel et Virginie Efira a attiré dans les salles obscures de l'Hexagone 475 200 spectateurs. C'est une performance impressionnante en temps normal et encore plus quand la plupart des cinémas de France ferment à 21h. Pour contextualiser, il s'agit tout simplement du meilleur démarrage de la carrière d'Albert Dupontel en tant que réalisateur. C'est mieux que Au revoir là-haut, qui avait fini sa course en 2017 à 2,1 millions d'entrées, et mieux que 9 mois ferme en 2013, qui avait lui aussi passé la barre des 2 millions de billets vendus.
Et d'autant plus qu'on se souvient qu'Albert Dupontel était assez remonté contre la décision de Gaumont de maintenir la sortie de son film la semaine dernière.
Oui, dans une interview au Parisien, l'acteur et réalisateur n'avait pas mâché ses mots. Il s'était dit, je cite, « frustré et triste de cette sortie bâclée ». Il avait expliqué qu'une sortie en août avait déjà été décalée. À l'époque, on lui avait promis que le film serait protégé et à nouveau décalé en cas d'inquiétude sur la situation sanitaire à l'automne. Voilà ce qu'il avait dit. Les arguments qui m'ont été avancés sont malheureusement triviaux économiques, ce qui est le mal de la planète depuis quelques décennies. Je demandais juste un délai d'attente, mais aujourd'hui, on n'a même plus envie de s'arrêter pour réfléchir. Il faut aller vite, coûte que coûte, c'est du gâchis, avait-il conclu. Pas sûr qu'il pense encore la même chose aujourd'hui.
Un mois après son hospitalisation, on a des nouvelles de Michel Drucker.
On l'avait appris un peu au dernier moment, juste avant qu'il fasse sa rentrée. L'animateur de Vivement Dimanche a été opéré du cœur le mois dernier. Son retour sur France 2 a donc été décalé. À l'époque, c'est la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui avait elle-même rassuré le public quant à la santé de Michel Drucker. Elle avait aussi indiqué qu'il pourrait prendre tout le temps nécessaire pour se remettre et que sa case l'attendrait à son retour. Depuis la rentrée, la case appartient d'ailleurs toujours à Michel Drucker grâce à des best-of de Vivement Dimanche. Et il ne devrait pas y avoir de numéro inédit avant février 2021. C'est ce qu'a révélé sa coproductrice historique Françoise Coquet au Parisien hier. Je cite, la chaîne nous a demandé de remonter des émissions jusqu'en janvier, mais à mon avis, il ne reviendra pas avant février. Au passage, dans cette interview, on apprend que Michel Drucker avait demandé à la direction de France 2 de confier les commandes de Vivement Dimanche pendant sa convalescence à la navigatrice Maude Fontenoy, mais la chaîne a refusé catégoriquement, selon sa coproductrice. Voilà ce qu'elle explique. Il tenait à ce que Michel reste à l'antenne pour maintenir le lien avec ses téléspectateurs, même avec des rediffusions, peu importe la durée. Et ils n'ont donc, a priori, toujours pas changé d'avis.
Et puis hier soir, les téléspectateurs ont dit au revoir à Marc, le héros de la flamme sur Canal+.
Oui, je suis là. Oui, je l'ai eu.
C'est en régie, ça crie.
Alors ça, c'est Leïla Bekti, une des prétendantes de Marc dans la série de Canal+. C'est Jonathan Cohen qui incarne ce pilote de ligne venu chercher l'amour dans une émission de dating fictive, La Flamme, aux côtés du comédien, un cast de rêve. Leïla Bekti donc, Géraldine Nakache, Doria Tillier, Vincent Dedienne, Pierre Ninet ou encore Florence Forestier et Camille Chamou. Hier, Canal+ proposait donc les trois derniers épisodes de la série. Je ne vais évidemment pas vous spoiler la fin de la saison, qui est toujours disponible sur MyCanal, mais ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'une deuxième saison est d'ores et déjà en préparation. C'est ce qu'a révélé Camille Chamou, qui incarne la délurée Chatalere.
Salut
Chatalere.
Chatalere?
Non, Chatalere, c'est de l'italien.
Italien?
Eh oui.
Ouf, où elle me plaît, elle, avec son charme.
Voilà. Voilà, on rit parce qu'on a vu la série.
Voilà, donc Camille Chamoul a annoncé dans le cadre de l'excellent podcast Sériland des Baroques. Elle en a même dit plus sur le format de cette future saison 2.
D'ailleurs, je suis très curieuse de savoir comment va se passer leur saison 2 qui est l'inverse. Dans leur saison 2, il va y avoir tous les garçons et une postulante. Bon, la postulante est géniale, on va pas dire qui j'imagine pour le moment, mais elle est géniale. En revanche, les garçons, il y a énormément de comédiens super drôles en France, donc je pense que ce sera pas difficile de trouver des comédiens humoristiques, mais je me demande s'ils auront aussi autant de liberté et de liberté du regard sur eux-mêmes.
Alors La Flamme, c'est l'adaptation d'une série américaine qui était notamment produite par Ben Stiller. Canal+ en a proposé 3 épisodes par semaine depuis le 12 octobre dernier. En moyenne, les 6 premiers épisodes ont réuni plus de 400 000 téléspectateurs en diffusion linéaire, mais évidemment, pour la chaîne, ce sont les performances globales sur la plateforme MyCanal qui comptent. Elles n'ont pas encore été dévoilées, mais a priori, les chiffres sont très bons.
Bien sûr, parce que si c'était mauvais, il n'y aurait pas de saison 2. Nicolas Bedos était l'invité de Quotidien hier soir. Il s'est plus ou moins excusé pour sa tribune anti-masque du mois de septembre.
Le 24 septembre dernier précisément, le comédien et réalisateur avait choqué en publiant un long texte sur son compte Instagram. Voici un petit extrait. « Soyons francs, arrêtez tout !» Tous les masques, les confinements, excepté face à vos parents très fragiles, vivez à fond, tombez malade, allez au restaurant, nous devons désormais vivre, quitte à mourir. Donc voilà, petit extrait de cet appel à l'inconscience collective. Nicolas Bedos a été vivement critiqué par d'autres personnalités du monde du spectacle, mais aussi et surtout par beaucoup d'hommes et de femmes politiques, à commencer par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Invité hier soir de Quotidien, l'acteur a été interrogé sur cette prise de position très controversée et il a fait une sorte de mea culpa.
Je comprends
l'indignation. Enfin,
oui, je comprends la polémique. C'est un texte excessif.
Vous l'avez écrit où ?
Je l'ai écrit dans la colère. C'est un texte que j'ai écrit le lendemain de la messe qui avait été organisée pour mon parrain Jean-Loup Dabadie.
Ouais.
Et donc c'est un texte qui est un peu irresponsable. Mais ça pose la question justement de la responsabilité d'un artiste. C'est une question d'ailleurs qui est abordée dans le livre par Salvador Dali à un moment donné, qui dit est-ce qu'un artiste a vocation à tenir des propos responsables ? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Moi, quand j'achète un roman de Houellebecq, d'Henry Miller ou de Virginie Despentes, je n'achète pas un guide de conduite. Sinon, j'achète un bouquin de Marc Lévy ou je ne sais quoi. Mais non, je ne crois pas.
Pas d'excuses donc, et une ligne de défense qui est celle de l'artiste, pas contraint de tenir des propos responsables, en ajoutant une dose de propos sortis de leur contexte. Face à Yann Barthès, Nicolas Bedos a assuré que dans la rue, il croisait des gens qui avaient compris parce qu'ils suivent son compte Instagram. Voilà ce qu'il a aussi dit. Ils savent dans quelle période de ma vie je me trouve, ils savent que je n'ai pas pu accompagner mes proches, que mon père est en partie parti à cause du confinement et de sa solitude imposée. Ils savent que c'est un cri du cœur. Il y a une semaine, dans une interview au Point, Nicolas Bedos avait déjà avoué qu'il n'avait, je cite, pas pris la mesure de l'insulte que sa litanie semblait postillonner au masque des soignants qui se battent pour nos gueules, aux flics qui s'épuisent à nous protéger de nos ivresses affectives.
Fin de citation. Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias.